Christus.
Dix jours avant la présidentielle américaine, le dernier débat télévisé entre Donald Trump et Joe Biden s'est tenu cette nuit dans le Tennessee. Les deux candidats sont parvenus à adopter un ton plus posé, mais se sont vivement opposés sur tous les sujets. Nous partons aux États-Unis dans un instant. Saad Hariri de retour au pouvoir, le nouveau premier ministre nommé au Liban, a déjà occupé la charge trois fois. Renversé il y a un an, il promet aujourd'hui réforme et gouvernement d'experts. Objectif, opérer le sauvetage financier libanais. La Guinée en plein conflit post-électoral. Alpha Condé et Sélou Dalein Diallo s'estiment tous deux vainqueurs à la présidentielle de dimanche dernier. Affrontement entre le président sortant et l'opposant qui se traduit aussi dans la rue. Des heurts ont eu lieu dans plusieurs villes guinéennes. Quel avenir pour l'église dans la très catholique Espagne qui ne l'est plus tellement? En quelques décennies, la perte d'influence de l'église est croissante au pays de Saint-Ignace et Sainte-Thérèse d'Avila. Un athéisme parfois radical s'y exprime même. Analyse historique en fin de journal.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour aux États-Unis. Ultime débat hier soir entre Donald Trump et Joe Biden à presque 10 jours de la présidentielle du 3 novembre. Les deux candidats étaient à Nashville, dans le Tennessee, pour ce face-à-face après l'annulation de leur seconde confrontation suite à la contamination de Donald Trump au Covid-19. Et cette fois, pas de foire d'empoigne. De nouvelles règles avaient été établies pour ne pas rééditer le spectacle du premier débat et tout s'est déroulé comme prévu. New York, Loïc Loury.
Deux minutes sans pouvoir être interrompu sur chaque thème, c'était la règle lors de ce dernier débat présidentiel. Joe Biden profite de son premier temps de parole pour attaquer d'entrée sur le grand sujet de la soirée. 220 000 Américains sont morts. Celui qui n'a pas maîtrisé la situation, celui qui est responsable de la mort de tant de gens ne devrait pas rester président des États-Unis. Mais micros ouverts, Donald Trump ensuite reste stoïque. Le président a changé son fusil d'épaule. Il n'interrompt pas son adversaire comme lors du premier débat, sans pour autant retenir les attaques personnelles sans preuve sur Joe Biden et sa famille. Joe a reçu 3,5 millions de dollars de la Russie. 3,5 millions de dollars, voilà ce que ta famille a reçu. Un jour, il faudra que tu t'expliques. Moi, je n'ai jamais reçu d'argent de la Russie. Joe Biden sourit, secoue la tête régulièrement, comme lorsque Donald Trump assure qu'il publiera dès que possible ses déclarations d'impôts. Mais entre les deux adversaires, sur chaque thème, Corée du Nord, immigration, économie, les échanges restent relativement courtois jusqu'au bout. Donald Trump, en retard dans les sondages, se montre raisonnable avant de retourner sur le terrain, multiplier les meetings à 11 jour de la présidentielle. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
Et la Maison Blanche qui annonce que le président Trump votera lui de manière anticipée demain en Floride. Washington qui sanctionne hier des entités iraniennes pour motif d'ingérence dans l'élection. Les gardiens de la révolution, l'armée idéologique de Téhéran ainsi que des médias iraniens sont concernés. La diplomatie américaine qui va chapeauter aujourd'hui à Washington une rencontre entre ministres des Affaires étrangères arméniens et azerbaïdjanais. Des discussions tenues séparément toutefois. Le même dispositif diplomatique avait été adopté par Moscou mercredi. Selon le Kremlin, d'ailleurs, le nombre de morts dans le Haut-Karabakh s'approcherait des 5 000, les deux côtés atteignant environ 2 000 personnes. Deux trêves humanitaires sont déjà restées lettres mortes dans la région. Il y a 70 ans, la Chine entrait en guerre contre les États-Unis et la Corée du Sud en guerre de Corée. De solennelles commémorations ont lieu à Pékin aujourd'hui, l'occasion pour Xi Jinping de célébrer une victoire sur les États-Unis en période de tension accrue avec Washington pour raisons commerciales, sanitaires, sécuritaires et idéologiques. Jamais 304, Saad Hariri, nommé Premier ministre hier pour la 4e fois au Liban. Un an après sa démission forcée et des mois de crise politique, il promet un gouvernement d'experts pour sortir le Liban d'une grave crise économique et tenter de réformer l'appareil d'État, condition sine qua non pour négocier une aide internationale. À Beyrouth, Chloé Doma.
Le retour de Saad Hariri a un air de déjà-vu. Ni surpris, ni franchement enthousiasmé, les Libanais relèvent surtout que sa nomination arrive pile un an après le début des manifestations populaires qui l'avaient forcé à la démission en octobre dernier. Saad Hariri, lui, a promis d'écouter les demandes du peuple et de former un gouvernement d'experts indépendants des partis au pouvoir. Une tâche loin d'être facile dans un paysage politique profondément fractionné où le Hezbollah, soutenu par l'Iran, a souvent le dernier mot. Ce gouvernement, s'il voit le jour, devra redresser redresser l'économie est là aussi pas facile. Troisième pays le plus endetté au monde, le Liban traverse la pire crise économique de son histoire. Ces derniers mois, 50% de la population est passée sous le seuil de pauvreté. Pour se redresser, le Liban a désespérément besoin d'aide internationale. Mais les pays étrangers, la France en tête, refusent de signer un chèque en blanc à une classe politique jugée trop corrompue. Passer des réformes et gagner la confiance des bailleurs de fonds, voilà donc le principal défi de Saad Hariri. Défi qu'il connaît bien, pour s'y être déjà attelé trois fois par le passé. Chloé Doma, à Beyrouth, pour Radio Vatican.
14 djihadistes tués par une frappe de drone hier en Syrie. La frappe de ce drone non identifié visait un rassemblement de djihadistes dans le village de Jakara, dans la province d'Idleb, au nord-ouest du pays. Ce sont les informations de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et le nord-ouest syrien toujours visé hier par un attentat à la bombe. Le moufti de Damas y a perdu la vie, rapporte l'agence de presse officielle syrienne Sanaa, dénonçant une attaque terroriste. Considéré comme un proche du président Bachar al-Assad, le moufti de Damas avait joué un rôle de premier plan dans les accords entre pouvoirs et rebelles pour faire cesser les combats dans la province de Damas ces dernières années. Bientôt la normalisation des relations entre Israël et le Soudan. Une délégation de l'État hébreu était hier en visite secrète à Khartoum. Plusieurs sources israéliennes évoquent un futur accord. Signe de mouvement en coulisses également, selon des commentateurs. Donald Trump qui a annoncé lundi que Washington s'apprêtait à retirer le Soudan de sa liste noire des pays soutenant le terrorisme accélérerait la normalisation de ses relations. La confusion continue à régner en Guinée après la présidentielle de dimanche dernier, après la revendication de la victoire dès le premier tour par l'opposant Sélou Dalaïn Diallo en début de semaine. Les résultats préliminaires publiés par la commission électorale indépendante laissent au contraire se dessiner une victoire du président sortant, le controversé Alpha Condé. Des heurts ont éclaté dans plusieurs villes du pays, Cyprien Viette.
Les résultats publiés jeudi soir par la commission électorale octroient une confortable majorité absolue dès le premier tour au chef de l'État sortant, Alpha Condé, avec plus de 2,4 millions des voix, soit le double de son opposant, Sélou Dalaïn Diallo. Les résultats ne sont pas encore complets, mais cette avance laisse présager d'une reconduction du président sortant pour un troisième mandat qui suscite depuis un an une forte contestation. Après le vote, de nouvelles violences ont fait une dizaine de morts selon les autorités et au moins 19 selon Sélou Dalaïn Diallo, qui dénonce une fraude à grande échelle et accuse la commission électorale d'être inféodée au pouvoir. Des affrontements violents se sont produits dans plusieurs villes du pays. Certains témoins évoquent même des scènes de guerre avec des détonations et des tirs nourris. Signe de la tension ambiante, Sélou Dalaïn Diallo se dit séquestré et une opération de police a été menée mercredi contre les bureaux de son parti. Ce conflit post-électoral s'étend maintenant aussi dans la diaspora guinéenne. Le ministre des Affaires étrangères, Mamadi Touré, a rapporté des attaques contre des représentations diplomatiques du pays en Belgique, au Sénégal et à New York. Il a imputé ces violences à l'autoproclamation d'un candidat.
Cyprien Viette. La loi sur l'avortement modifiée en Pologne, le tribunal constitutionnel du pays a donné son feu vert hier à l'interdiction de cette pratique en cas de malformation grave du fœtus. L'interruption volontaire de grossesse n'est autorisée en Pologne qu'en cas de danger de mort pour la femme enceinte ou de grossesse résultant d'un viol ou d'un inceste. C'est un diocèse d'une très grande vitalité dans lequel poursuivre la mission. La réaction de joie de Mgr Olivier de Germay après l'annonce hier de sa nomination comme archevêque de Lyon. Le diocèse de Lyon est cependant toujours convalescent après l'affaire Bernard Prénat. Ce prêtre accusé d'abus sexuels sur mineurs est condamné par le tribunal correctionnel de Lyon et renvoyé de l'état clérical. Affaire qui avait conduit le cardinal Philippe Barbarin à donner sa démission. Mgr Olivier de Germay a bien conscience de la souffrance des catholiques de la capitale des Gaules. On écoute.
J'ai le sentiment que c'est un diocèse qui a beaucoup souffert, qui est blessé, donc il faut en prendre soin. Mais on ne peut pas non plus simplement tirer un trait sur ce qui s'est passé. Je crois qu'il faut en tirer des enseignements. Je crois que la priorité, c'est quand même d'être à l'écoute des victimes, de prendre au sérieux leur récit. Et puis, je dirais, de vraiment tourner le dos à ce que j'appelle le monde d'avant, c'est-à-dire cette époque où, au fond, on ne parlait pas de ces choses-là, si vous voulez, et dans l'Église comme dans toutes les institutions d'ailleurs, on mesure de plus en plus les dégâts, les souffrances immenses et durables de ces abus. Après, je pense aussi que la vie du diocèse de Lyon ne se réduit pas à ça. C'est un diocèse très riche. Il y a une magnifique vitalité dans ce diocèse pour qu'ensemble on puisse poursuivre la mission. Parce que le but quand même de l'Église, c'est d'annoncer le Christ. Je crois qu'on a vraiment, dans le contexte actuel, une mission magnifique à remplir.
Des propos recueillis par notre confrère Jean-Baptiste Cocagne de RCF Lyon. En Espagne, l'Église catholique fait face depuis plusieurs décennies à de nombreux défis, parmi lesquels la fracturation des identités régionales, les évolutions des mœurs et la montée de l'indifférence religieuse. Un récent sondage a montré un désintérêt croissant des jeunes pour l'enseignement religieux à l'école. Un athéisme parfois radical s'exprime dans les nouvelles générations et l'Espagne n'est plus le bastion catholique qu'elle semblait être, notamment sous Franco. Pour une grande partie de l'opinion publique, l'assimilation de l'Église catholique à une instance de contrôle sociale et morale, liée au régime franquiste, demeure un facteur de distance, de méfiance. Cette vision est pourtant réductrice et simpliste. En réalité, l'Église a aussi été un moteur pour la transformation et modernisation de l'Espagne. Et aujourd'hui, les évêques cherchent à inscrire le témoignage chrétien dans une nouvelle dynamique, moins politisée, moins clivante. C'est ce que nous explique l'historien Benoît Pellistrandi. Il est spécialiste de l'histoire espagnole.
On associe l'Église au franquisme alors que les choses ont été beaucoup plus complexes. Au tout début de la guerre civile, l'extraordinaire vague de violence antireligieuse entre le mois de juillet et le mois de septembre 1936 pousse les catholiques dans le camp nationaliste, j'allais presque dire de façon mécanique. Et donc ensuite, quand le régime de Franco se met en place et est victorieux, on parle beaucoup de ce fameux national-catholicisme et la morale voulue par l'État est une morale dans laquelle les évêques qui ont soutenu le coup d'État militaire se trouvent à l'aise. Mais très rapidement, il y a un renouvellement générationnel, de nouveaux évêques qui arrivent en poste. Cette nouvelle génération, elle va être actrice de Vatican II. Et à cet égard, Vatican II représente une inflexion majeure. L'Église espagnole va se détacher du franquisme entre 1960 et 1970. J'allais presque dire, elle va faire la pré-transition démocratique. Et nous avons en fait une Église qui, au moment où Franco meurt, est prête non seulement à jouer le jeu de la démocratie, mais a parfaitement conscience des transformations sociales et culturelles de l'Espagne.
On a vu dans les années 2000, notamment avec toute l'évolution des mœurs, un clivage très profond se dessiner dans la jeunesse espagnole notamment. On a l'impression que le clivage entre les jeunes athées et les jeunes cathos est encore plus violent en Espagne qu'en France. Est-ce que ces dernières années, avec la personnalité du pape François, est-ce qu'il y a un petit peu une démarche de l'Église aussi d'aller à la rencontre de ces jeunes qui sont très éloignés?
L'action du pape François a beaucoup compté et on sait qu'il y a pour le coup un tournant franciscain de l'Église espagnole. Le pape François a complètement modifié le visage de la hiérarchie épiscopale espagnole. Ce qui est aussi intéressant, c'est de constater que dans les liens nouveaux qui ont été tissés entre l'Espagne et le continent sud-américain par les flux migratoires, l'Église a joué un rôle d'accueil très important. Et aujourd'hui, le dynamisme de la pratique religieuse dans un certain nombre de paroisses périphériques, je pense à Madrid, voire même à Barcelone, est rendu sensible par les populations latino-américaines. Je dirais aussi que l'Église espagnole a eu depuis, je veux dire, 5 siècles, l'habitude à la fois de l'élan missionnaire et du métissage.
Quel est le positionnement de l'Église actuellement par rapport à toute cette cristallisation sur les identités régionales? Est-ce qu'elle apporte des signes d'unité pour la nation espagnole?
En réalité, le rapport de l'Église à la nation espagnole est extraordinairement complexe. Si vous allez au Pays Basque, l'Église espagnole est très profondément basque et nationaliste basque. De même, en Catalogne, une partie de l'Église catalane est profondément indépendantiste. À ces phénomènes régionaux répondent aussi d'autres traditions qui voient l'Espagne comme une unité et l'Espagne comme une grande puissance catholique. Or, justement, je crois que l'intelligence actuelle des dirigeants épiscopaux, et là encore une fois sous l'impulsion du pape François, c'est d'essayer de sortir de ces pièges politiques et mémoriels pour replacer l'Église dans le cœur de la société espagnole et être signe positif et non plus être signe de division. Donc je crois qu'il y a un vrai travail pastoral qui est en train d'être mené pour qu'on sorte d'une lecture politique de l'Église et qu'on revienne, j'allais presque dire, à une lecture évangélique. En tout cas, c'est l'effort que sont en train de faire les évêques espagnols.
Interrogé par Cyprien Viette, l'historien Benoît Pellistrandi, spécialiste de l'Espagne, était ce matin l'invité de Radio Vatican. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci beaucoup de votre écoute et fidélité attentive à nos ondes. Prochain point, 13h heure de Rome. L'actualité se prolonge, elle, sur le site Vatican News. Très bonne journée.